Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Avec par ordre d'apparition Natacha Triou. Bonjour Natacha.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez la Madeleine 2, c'est le souvenir gustatif d'une personnalité. Qui donc aujourd'hui ?
Le comédien Laurent Stocker.
Bonjour Pierre Hiverna.
Bonjour Caroline.
Vous dirigez la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale qui est notre partenaire. Et vous nous proposez chaque fin d'émission la chronique La Cerise sur le gâteau aujourd'hui.
Les jeunes pousses des start-up de la food tech.
À tout à l'heure. Alors 12h15 pour la Madeleine 2, 12h25 pour la cerise sur le gâteau. Et peut-être avez-vous remarqué qu'aujourd'hui et de plus en plus, nous consommateurs, sommes invités à manger local et à privilégier les circuits courts, tant pour des raisons écologiques que pour favoriser les producteurs de nos régions. Seulement voilà, qui n'a pas constaté en faisant son marché que les produits français, un, sont plus rares, selon l'INSEE, un tiers des produits vendus en France viennent de l'étranger, et deux, coûtent sensiblement plus cher. Alors comment réconcilier les deux exigences ? Manger français, mais pas à n'importe quel prix, c'est notre plat du jour. Avec deux invités, ce matin, ce midi plus exactement, Arnaud Bondebourg, bonjour.
Bonjour.
Ancien ministre de l'économie et du redressement productif du gouvernement François Hollande. Aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur lancé dans la production de miel et d'amandes sous la bannière Bleu Blanc Ruche. Bonjour à vous Nicolas Chaban.
Bonjour.
Fondateur de la marque C'est qui le patron ? Point d'interrogation évidemment. C'est le plus gros succès pour une nouvelle marque depuis 30 ans et vous allez nous dire l'un et l'autre comment fonctionnent vos deux entreprises. Mais d'abord un mot sur ce Made in France. Pourquoi c'est devenu si difficile de trouver des produits français dans un pays où la gastronomie figure quand même au patrimoine mondial de l'UNESCO? Il suffit de se rendre dans un supermarché, ce que font encore beaucoup de nos compatriotes. Il suffit d'aller sur les étals des marchés pour découvrir, et on est à la veille d'élections européennes, qu'il y a beaucoup de produits qui viennent d'Europe, qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Italie, qui viennent des Pays-Bas, qui viennent d'ailleurs, mais pas beaucoup, beaucoup de Français. Arnaud Montebourg.
L'industrie s'est effondrée. C'est la vérité. La France est passée cinquième dans les cinq grandes puissances européennes, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, France. Elle est numéro 5 dans la part que réserve la richesse nationale à l'industrie, c'est-à-dire la production industrielle, donc la transformation des aliments. Et pourtant, l'agroalimentaire figure en tête des secteurs où le Made in France reste le plus prégnant, parce que les Français aiment leur culture alimentaire. Et d'ailleurs, dans tous les pays, regardez ce qui se passe en Italie.
Ils seraient même prêts à mettre un peu plus cher, paraît-il,
encore aujourd'hui, pour consommer français. Tous les secteurs, mais particulièrement dans un domaine qui impacte leur santé, et où ils ont décidé de reprendre le pouvoir. Beaucoup de Français ont le sentiment qu'ils ont perdu le pouvoir, mais sur leur alimentation, ils ont décidé de le reprendre. Et donc, ils votent tous les jours avec leur carte bleue. Et ils posent des questions. Et les étiquettes. Et où est-ce que c'est fabriqué, monsieur, s'il vous plaît? Je peux pas vous répondre. J'irai ailleurs. Il y a une espèce de contrôle, j'allais dire sociétal, sur le produit. Et c'est une des raisons pour lesquelles le consommateur soutient des marques qui rémunère mieux le travail. Parce que le sujet, c'est chaque Français, il est consommateur, donc il a le portefeuille à droite, mais il est aussi citoyen, donc il veut des emplois pour ses enfants, des entreprises qui embauchent, une économie prospère. Et ça, c'est le citoyen, c'est à gauche. Eh bien, il a réconcilié les deux lobes, j'ai envie de dire, de son cerveau, droite et gauche. Et il a dit, eh bien maintenant, on va essayer de concilier les deux. C'est pourquoi le consommateur soutient de plus en plus le producteur et a décidé du circuit court directement chez le producteur, en tout cas le plus court possible, pour pouvoir rémunérer ses efforts et attester que le produit vient bien de chez ce producteur qu'il aime, qu'il affectionne et qu'il veut soutenir.
Nicolas Chaban.
Il y a de plus en plus de produits quand même et locaux et français. La tendance, elle est claire. Il n'y en a pas assez, ça c'est vrai. Mais il faut repartir aussi de cette logique un peu schizophrénique de la grande distribution. Je leur dis aussi bien que je peux le dire ici à ce micro. Pendant 40 ans, il n'y avait qu'une idée, c'était le premier prix. Il fallait être le moins cher. Et naturellement, on a enlevé tout ce qui rendait un peu plus cher. Et évidemment, le Made in France et la qualité, c'est pas toujours le produit le moins cher.
Et il a
fallu.
Loin de là.
Et loin de là, c'est vrai.
C'est quand même même plus cher, faut être bien clair.
Voilà. Mais à la fois, il fallait reposer la question. C'est ce qui se passe. Il y a le succès de marques, évidemment, qui apparaissent. humblement, hein, puisque nous, on a démarré cette aventure C'est qui le patron avec deux consommateurs, se disant à quoi sert notre argent? Qu'est-ce que vous en faites? Quel monde je façonne, effectivement, avec ce vote quotidien, par mes achats? J'ai pas envie d'être involontairement, avec cet argent que je dépense, rendu complice du fait qu'à l'autre bout, un petit producteur ne gagne pas sa vie. Et c'est comme ça qu'on a posé la question à travers le lait. Maintenant, il y a 19 produits. Et tout le monde a constaté avec étonnement, mais c'est tellement, c'est de l'espoir, hein, c'est pas la performance des chiffres. Ce lait équitable, que les gens imaginaient susceptible de se vendre à 5, 7 millions de litres par an, il vient de passer les 100 millions de litres de lait. Il est plus cher, c'est vrai, un peu plus cher.
De combien?
Alors, par rapport à un prix moyen, c'est 17 centimes par rapport à un prix qui serait resserré. Mais, comme le disait Arnaud Montebourg, il n'y a pas simplement des centimes qui ont été rajoutés dans le lait. On a décidé, par des votes collectifs, qu'il n'y ait pas d'OGM dans l'alimentation animale, du pâturage, 3 à 6 mois, des fourrages locaux. C'est-à-dire que quand on nous redonne le volant, quand on nous explique les choses, quand on reconstruit un prix un peu plus cher, mais qui donne du sens à notre acte d'achat, eh bien, on fait du lait le produit le plus vendu, la référence le plus vendue aujourd'hui dans du rayon lait, derrière la MDD, vous imaginez ce que ça peut être. Le beurre bio, je vous en parlerai après, beurre bio le plus vendu de France, alors que tout le monde, le vote collectif des consommateurs, a rajouté 15 centimes sur le prix pour préparer le bio de demain. Donc non, le premier prix n'est pas le seul moteur aujourd'hui des achats. Il faut en revanche expliquer de quoi est fait le produit et surtout garantir que les centimes vont bien au producteur et que l'origine est bien locale ou française.
Arnaud Montebourg, vous connaissez les produits C'est qui le patron?
Bien entendu. D'ailleurs, moi je veux rendre hommage à Nicolas Chaban parce que c'est un pionnier. Et ce que nous avons fait dans Bleu Blanc Ruche, dans le miel, dans une filière qui a explosé. Il y a 20 ans, on produisait 30 000 tonnes de miel en France et on en consommait 30 000. Aujourd'hui, on en consomme 45 000, on en produit 16 000. Enfin, entre 9 et 16 000 sont la police et les organisateurs. Vous voyez, on en est là. Et en fait, est arrivé sur le marché du miel mondialisé, fabriqué, conditionné, mélangé dans les usines chimiques asiatiques qui généralement mettent du sirop de sucre à la place du miel et vendent du sucre au prix du miel, et avec une grande distribution qui a fait le choix de casser les prix et de désapprendre aux consommateurs ce qu'est le miel de cru. Parce que les abeilles vont chercher l'arôme des fleurs, elles butinent des fleurs. Donc les végétations ne sont pas les mêmes. Vous avez le miel d'acacia dans les Vosges, vous avez la bruyère dans les Landes, vous avez la bourdaine dans le Limousin. Vous avez la richesse des terroirs est exprimée dans le miel. Donc nous, on a décidé, un, de réhabiliter les miels de cru, deux, de mieux payer l'apiculteur. C'est-à-dire que nous faisons comme C'est qui le patron. C'est-à-dire que nous avons acheté nos miels sur le marché entre à 45 apiculteurs que nous avons, avec lesquels nous avons contractualisé pour 3 ans, entre 5 et 18% plus cher que les prix de marché. Et sur le pot, ça donne entre 10 et 30 centimes de plus, ce qui est indolore pour le consommateur, mais qui est une contribution à quoi? Dans le miel, nous, notre problème, c'est qu'il manque en Europe 13 millions de ruches. Donc on a un problème d'effondrement de la biodiversité, du niveau des insectes, de la pollinisation. Donc pour réhabiliter, Bleu Blanc Ruche, en fait, fait participer le consommateur au repeuplement. Donc nos apiculteurs prennent l'engagement d'augmenter la taille de leurs exploitations en nombre de ruches, en colonies. Par exemple, Monsieur Mollet, au GAEC Rucher du Born, à Pontinx-les-Forges, dans les Landes, a dit « je vais créer 50 ruches de plus ». Grâce au petit surcroît de rémunération que nous versons. Monsieur Nicolas Ladouenex, qui fait un magnifique miel de fleurs sauvages, vous en a apporté un, madame Brouet.
Là, j'ai de la chance.
Et qu'on peut acheter sur bleublancruche.fr, puisque nous
vous
sommes
aussi
allons-y.
Faire de la publicité, on voit bien.
D'un certain nombre d'enseignes, pas aussi nombreuses que C'est qui le patron, mais enfin, quand même, Auchan, Franprix et Monoprix, à Paris.
On donne pas de marque sur le service public.
Eh ben, c'est trop tard, c'est fait. Moi, je donne des marques, vous pas, mais moi, oui, et c'est ma liberté. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font ces apiculteurs? Ils recréent un nombre de ruches suffisant pour participer au repeuplement. Donc, c'est une alliance entre l'apiculteur et le consommateur, quasiment directe. Alors, nous, on se rémunère pour investir, faire connaître et progresser, prendre des parts de marché à ceux qui, aujourd'hui, cassent les prix, appauvrissent les apiculteurs et, finalement, amènent les apiculteurs à la disparition parce que il ne reste plus en France que 50 apiculteurs de plus de 1000 ruches. Voilà. C'est-à-dire que vous avez une disparition des apicultures mondiales essentiellement d'abord pour des raisons économiques. Donc vous avez le sujet de l'environnement, des pesticides, néonicotinoïdes, qui attaquent l'outil de travail, donc la mortalité, le frelon asiatique, les fléaux, varroa, etc. Puis vous avez les attaques économiques, contre lesquelles nous ne sommes pas protégés. L'Union européenne n'a pas pris des mesures de protection, comme l'ont fait d'ailleurs les États-Unis d'Amérique, qui ont mis des taxes, je ne sais plus combien de centaines de pourcents, sur les miels chinois pour arrêter le massacre sur leur apiculture.
Nicolas Chaban.
Il faut rappeler, c'est vrai, Arnaud Montebourg a raison de dire qu'il faut redimensionner ce qu'est un lait équitable sur une année. C'est comme ça qu'il est arrivé ce lait équitable, 8 centimes par litre, à un cahier des charges équivalent, fois 50 litres, consommation annuelle par habitant et par an, ça fait 4 euros. Voilà ce qu'il faut rajouter par an sur ces achats de lait pour que son acte d'achat redonne le sourire à un producteur. Sur l'huile, on a fait un calcul un jour, on a vu une grande marque, on a parlé de tout ça, on leur a posé la question, combien il faut pour que vos producteurs gagnent leur vie? Ils ne savaient pas. Ce chemin n'a pas été pris. Et on a découvert que c'était 1,20€ par an. 1,20€ par an. C'est-à-dire que redonner de l'équité, c'est vraiment tout à fait accessible. Et puis on a un plaisir infini, c'est qu'on achète et qu'on pose un produit qui, sur la table de ses enfants, donne du sens à son acte d'achat et à ce qu'on considère être une vision du monde un peu différente que celle du premier prix. Donc je crois qu'il faut redimensionner tout ça, effectivement, expliquer, faire de la pédagogie. On a fait aussi, avec les votes collectifs, puisque ça se passe comme ça sur Internet, un miel, et on se rend compte que ce bon sens...
Concurrent, dis donc.
Ah, mais c'est un hommage que je rends en direct à Bleu Blanc Ruche, parce que...
On n'est pas concurrents, on est des soutiens mutuels.
Dans l'équité, on essaie de faire passer ce message. Il n'y a pas un produit équitable qui est en concurrence avec un autre produit équitable. C'est une addition de produits équitables. Et il faut reprendre une place dans des rayons où aujourd'hui ça doit être 2-3%, à 30%, on sera bien et on sera différemment armé. Le miel, question posée, tout à fait libre, arrive la question de la protection des abeilles. Donc il y a deux miels, un miel bio et un miel traditionnel. Est-ce que vous rajouteriez des centimes qui ne sont pas nécessaires à l'existence du produit, mais qui permettraient de participer à un fonds qui va protéger les abeilles, notamment en replantant des prairies fleuries. Bon. 11 centimes ont été votés. Ça veut dire que, c'est l'exemple du beurre bio que je voulais vous donner, aujourd'hui, à ceux qui pensent que le premier prix est le seul avenir de la consommation, on peut humblement, encore une fois, expliquer que quand vous le faites sur un beurre bio, question, qu'est-ce qu'on rajoute sur un beurre bio pour que on aide les producteurs en conversion vers le bio? C'est deux années où ils ont toutes les contraintes du bio sans la rémunération du bio. La grande distribution nous a dit, mais les consommateurs ne vont pas rajouter des centimes, ils nous demandent de les enlever. 15 centimes ont été rajoutés sur un prix à 2,20€. 15 centimes. Est-ce que ça en a fait un beurre bio vendu à la grande épicerie de Paris dans une petite de façon confidentielle? Non. C'est devenu le beurre bio le plus vendu de France aujourd'hui, avec 20% de part de marché, mais tout le monde est étonné, sans commerciaux dans les magasins, sans pub à la télé. Donc ça veut dire qu'un produit avec du sens aujourd'hui, quand il est expliqué, il a des arguments même pour se vendre mieux.
Dans C'est qui le patron, Nicolas Chaban? C'est donc le client qui crée le produit qu'il souhaiterait acheter et qu'il va acheter ensuite quand il sera fabriqué.
C'est nous les consommateurs.
C'est bien ça, c'est le consommateur. Est-ce que c'est pas une surresponsabilité du consommateur?
Non, bon.
Ce qu'on appelle maintenant le consommateur, mais non, ça n'a pas tellement de sens.
Ça n'a pas été vécu comme ça. On était avant, pendant 40 ans, des consommateurs, on poussait un caddie et puis il y avait des équipes de marketing et de com qui réfléchissaient. En se disant, mais qu'est-ce que ce peuple lointain qu'on appelle les consommateurs voudrait sans nous interroger directement? C'est quand même extraordinaire. Combien de fois vous avez été questionné?
C'est reprendre le pouvoir dont parlait tout à l'heure Arnaud Montebourg.
On repose une question, les réseaux sociaux, les nouveaux outils le permettent, et vous avez des réponses toutes simples. On voit que le bon sens l'emporte à chaque fois, équité, qualité, origine, même s'il y a un arbitrage sur le prix, et derrière, c'est pas une vue de l'esprit bobo, c'est des succès jamais vus dans le monde agroalimentaire. Et ces chiffres-là, ils n'ont d'intérêt que d'être signalés pour l'espoir que ça représente aussi côté producteur.
C'est carrément une nouvelle économie de l'alimentation pour voir nos Montebourg.
Écoutez, il y a 20, 30 ans, 70, 75, oui, c'est ça, presque 40, il y avait dans la dépense annuelle du citoyen français, du ménage français, la nourriture y était pour 30%. Aujourd'hui, elle est de 20%. La conséquence, c'est qu'on a détruit notre agriculture. la grande distribution qui a cassé les prix, a structuré la consommation sur des produits industriels avec des problèmes d'additifs alimentaires, d'empoisonnement lent. Moi, pour moi, si vous voulez, l'épidémie de cancer qu'on a quand même un rapport avec le laxisme dont on a fait preuve vis-à-vis des contenus alimentaires qu'on a tolérés. Et c'est un problème du monde occidental. Donc nous allons devoir redécouvrir une agriculture entièrement bio. C'est pour moi le sujet du prochain président de la République, puisque celui-là n'a pas été capable de le faire. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on ramène la totalité de notre capacité de production agricole et alimentaire à l'autosuffisance, d'abord, ce qui a été l'histoire de la PAC et de l'agriculture française après-guerre, et surtout capable de nous nourrir sainement. Et donc, les prix vont devoir naturellement remonter. Et c'est-à-dire que la part qu'on va consacrer à notre santé, à notre alimentation, dans toutes les classes de la société, va devoir remonter. Ce que fait Nicolas Chaban en disant ben, c'est 4 euros de plus par an sur le lait, 1,20 € de plus sur l'huile, ou nous, ce que nous faisons chez Bleu Blanc Ruche, c'est quelques dizaines de centimes sur un pot de miel, on en consomme en moyenne beaucoup moins que le lait ou le beurre. Cet effort-là, dans tous les domaines des produits naturels, sains, peu transformés, où il n'y a pas les E des additifs alimentaires, et vous verrez que ça va contaminer la totalité des habitudes de consommation, c'est une nouvelle société qui s'installe, où le rapport direct du locavore, presque, hein, entre le producteur et le consommateur, c'est une nouvelle alliance qui s'installe, et on va se débarrasser, à terme, de tous ces distributeurs qui nous ont vendu tout ça, et une société de consommation alimentaire qui n'était pas à la hauteur des enjeux de santé de la société.
Les mirabelles de Lorraine, le citron de Menton, les abricots rouges du Roussillon, tous produits chez nous, comme la clémentine de Corse.
Et c'est l'heure de retrouver la Madeleine, chère Natacha.
Et là, c'est la Madeleine du comédien Laurent Stocker. En ce moment, on peut le voir à la Comédie Française dans Fanny et Alexandre, qui se joue jusqu'au 19 juin. Lorsqu'il ne joue pas et lorsqu'il ne répète pas, il se réunit les jeudis soirs avec le Club des 100, le club de gastronomie française, avec Bernard Pivot et Eric Orsena. Alors là, on parle de Made in France, de produits Made in France. On a évoqué le miel, le lait. Et bien là, pour sa Madeleine, Laurent Stocker nous parle d'un fruit à coque produit localement, la noix. Ce n'est pas nécessairement une spécialité française, mais en tout cas, c'est celle de sa mère.
Moi, ce qui m'évoque ma Madeleine à moi, ce serait... je ne suis pas du tout dessert, mais ma mère faisait un dessert absolument magnifique, qui était un gâteau aux noix. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des origines plutôt montagnardes ? Il y avait des noyers, donc dans le village où mes parents habitaient, et je me souviens très bien de la récolte des noix, d'une part, et puis le fait de décortiquer ces noix fraîches, de les broyer, de les mélanger avec des œufs, etc. Et ma mère faisait un gâteau absolument somptueux, que j'ai jamais retrouvé évidemment, puisque le principe c'est d'essayer de se rapprocher au plus près de la recette de sa maman, mais de ne jamais la retrouver. C'est ce qui me reste de l'enfance. Une petite neige qui tombe un mercredi où il n'y a pas d'école, et puis voilà l'odeur du thé et de ce gâteau aux noix. La texture du gâteau aux noix, c'est à la fois croquant et moelleux, c'est-à-dire qu'il y a des petites choses qui se mettent sous les dents, qui paraissent désagréables, mais en fait qui sont vraiment les noix. Et alors il y a le fondant. Il y a l'œuf qui est battu en neige, qui est incorporé. Je ne sais pas du tout la recette exactement. Je sais exactement les gestes que faisait ma mère. C'est des gestes amples, c'est des gestes qui accompagnent vraiment ce qu'on appelle l'appareil en cuisine, donc avec les noix. Et c'est fondant, croquant, moelleux, un tout petit peu d'amertume, mais quand même une dominante de sucre qui prévaut. Ma mère faisait des plats tout à fait basiques, entre guillemets, des plats familiaux, mais des plats généreux. Et je suis pas du tout dessert, je suis pas du tout sucre dans ma vie, je suis plutôt sel. Mais ça, j'avoue que le gâteau aux noix, si j'en trouve un dans un restaurant, j'ai du mal à résister. J'ai jamais retrouvé le gâteau aux noix de ma mère, parce qu'il est vraiment, il a vraiment une consistance, et il était, je crois qu'elle y allait bien en beurre. C'était bien beurré.
On Voilà le gâteau aux noix du comédien Laurent Stocker. Alors Arnaud Montebourg, vous n'avez pas choisi de refaire ou de replanter des noix, des noyers en France, mais des amandes en plus du miel. Ça participe de la même démarche pour vous, le miel et les amandes?
Bah écoutez, non, bah c'est-à-dire que moi j'ai une obsession des secteurs effondrés qui me... Ça me fait pleurer intérieurement. J'ai connu ça quand j'étais ministre de l'Industrie. J'en pouvais plus. Et l'agriculture, c'est la même chose. Je suis quand même, j'ai été élu pendant 20 ans en région rurale. Je suis issu de la Bourgogne profonde, du Morvan, pour ne rien vous cacher. Et je dois vous dire que voir des productions qui ont disparu dans un pays aussi extraordinaire, un pays de cocagne, qu'est la France, ça me blesse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, quand j'ai décidé avec quelques amis de replanter les amandiers en 1948. Il y avait 12 000 hectares plantés d'amandiers en Provence. On consommait l'amande, ce n'était pas qu'une culture d'appoint, c'était une culture de professionnalisée, avec des amandiculteurs. Aujourd'hui, on consomme en France 36 000 tonnes par an d'amandes, on en produit près de 800. Et 60% de la production d'amandes repose sur... 47 amandiculteurs corses de talent et de génie, parce qu'il fallait le faire quand même d'avoir gardé cette culture, mais sur l'île de beauté. La totalité est importée de quasiment de la Californie, 365 000 hectares. Mais il n'y a plus d'eau en Californie. L'industrie du forage pétrolier est allée chercher, attaquer les nappes phréatiques.
On a fait des bonnes choses sur l'amande, oui.
Et les Australiens ont compris ça. Ils ont dit, nous allons remplacer la Californie, mais il n'y a pas plus d'eau en Australie qu'en Californie. Donc ça va être le retour dans le berceau méditerranéen de l'amande, là où elle est née, depuis la Syrie, l'Iran, jusqu'en Europe occidentale, Espagne, France, Italie, Maghreb. Notre vision est que le Made in France est soutenu par les consommateurs et qu'il n'y a pas d'amande aujourd'hui. Par exemple, l'Occitane de Provence dit, quand est-ce que vous allez nous les livrer, vos premières amandes? Je dis, il faut déjà que les arbres poussent, parce qu'on a commencé à planter les tout petits premiers hectares. Et donc, nous avons décidé de planter 2000 hectares en Provence et en Occitanie, sur les départements de la façade méditerranéenne, avec le soutien de nombreux arboriculteurs. Nous n'achetons pas les terres, nous les louons, et avec eux, nous associons avec les arboriculteurs. Donc, en fait, nous, on est des agriculteurs en minoritaire dans les exploitations agricoles. Nous apportons le capital, eux apportent le travail, et... on développe la récolte ensemble.
Est-ce que c'est possible? Alors là, je vous pose la question à tous les deux, puis je vais peut-être inclure Pierre Hiverna dans la conversation. Est-ce que c'est possible d'aller à l'encontre de cette mondialisation de l'alimentation, sachant que effectivement, nos produits, là vous citiez à l'instant l'amande qui vient de Californie, mais nos produits sont de plus en plus importés de l'étranger et que se refermer sur soi-même, ça peut être un peu compliqué aujourd'hui. Et Pierre, en particulier, vous disiez le Made in France est d'autant plus difficile qu'il y a pas mal de produits, notamment le soja qui vient du Brésil.
On a un nouveau président au Brésil, par exemple, qui va mener une politique agroalimentaire extrêmement offensive, avec une ministre de l'Agriculture qui est une ancienne lobbyiste de l'agro. Et par exemple, pour prendre un seul exemple, un quart des tourteaux qui nourrissent nos bêtes viennent du Brésil. Ouais. On a 10% d'autonomie aujourd'hui pour nourrir nos animaux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec un pays qui va produire encore plus et à plus bas prix.
Nicolas Chabanne.
On constate aussi que le local, il y a des idées qu'on n'avait pas il y a 2 mois, 3 mois et qui aujourd'hui apparaissent comme des évidences. J'ai toujours l'image de cette laitière, vous savez, qui vous faisait croire qu'on faisait des yaourts comme ça, habillés à l'ancienne. C'était toléré, puis c'est devenu insupportable en quelques semaines. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on a tous pris conscience que acheter local, c'est aussi apporter son argent à quelqu'un, un producteur, une PME, qui va elle-même redépenser. On l'a souvent dit, ça. Mais ça prend un sens différent. On va donner son argent à quelqu'un qui pourra finalement, par un circuit, par une économie circulaire, ramener de la richesse vers nous ayant fait cet effort d'une dépense locale. Toutes ces notions vont évidemment changer les choses. C'est toujours la même idée. Qu'est-ce que vous faites de mon argent? Où il va? Cet argent dur à gagner, vous en faites quoi? Qu'est-ce que je façonne comme monde à partir de cette ressource qui est finalement pas facile à avoir et à investir intelligemment.
Arnaud Montebourg.
Oui, moi je pense qu'il faut être protectionniste en matière alimentaire parce que l'autonomie alimentaire c'est un élément de souveraineté décisif. C'est aussi des choix de société comme dit fort bien Nicolas Chabanne. Je rappelle que la PAC c'était un projet protectionniste qui a duré jusqu'à une dizaine d'années et qui a été démantelé par les libéraux qui ont pris le pouvoir dans l'Union européenne. Mais enfin, toutes les grandes puissances économiques sont sur le plan agricole totalement protectionnistes. Donc il va falloir reconstituer à un moment des protections contre le soja dégueulasse, le ceci indésirable, le machin dont on ne veut pas, pour faire monter les prix, protéger nos producteurs pour qu'ils puissent vivre de leur travail et que nous puissions nous nourrir avec nos propres moyens.
En faisant de la qualité d'ailleurs.
Et voilà. D'ailleurs, le succès des produits, c'est qu'ils patronnent avec le beurre, le lait, maintenant la compote et le jus de pomme, la pizza, la salade, le steak haché, vous disiez 19 produits maintenant, puis le fait que vous soyez maintenant copié par la grande distribution, comme les éleveurs vous disent merci, disent bien qu'effectivement le succès est au rendez-vous et les consommateurs sont au rendez-vous. Restez avec nous pour écouter la cerise sur le gâteau, c'est Pierre Hiverna et c'est tout de suite. On reste dans le Made in France, les jeunes pousses du Made in France, Pierre.
C'est ça Caroline, je voulais profiter de notre plat principal pour vous parler en dessert de quelques jeunes pousses du Made in France qui ne manquent pas d'idées. Alors vous me direz, des idées effectivement au rythme où fleurissent les incubateurs de start-up depuis quelques années, c'est pas vraiment ce qui manque dans ce monde que l'on appelle parfois de ce vilain anglicisme la food tech. Mais dans la catégorie des malins et surtout des malignes qui concrétisent leurs idées sans folie immédiate des grandeurs et dans la durée, ça se bouscule un peu moins. Et donc, côté maligne, je voulais vous parler par exemple d'Élodie Germain et Delphine Dubois, qui ont créé la société Les Trois Chouettes, et qui sont partis du simple constat que l'on en avait un peu marre des éternels chips, cacahuètes et autres bretzels industriels à demi desséchés pour l'apéro. Elles ont donc créé une ligne de pickles, référencée dans toutes les bonnes maisons, et leur démarche est essentiellement fondée sur des partenariats 100% français ou l'économie vertueuse et de rigueur sur toute la chaîne bio de production. Et les voilà lancés aujourd'hui dans une démarche très made in France à vouloir relancer le cornichon français qui représente actuellement, tenez-vous bien Caroline, 1% des 60 millions de bocaux consommés par les Français. Le reste venant d'Inde où trois récoltes par an et une main d'œuvre bon marché font la joie des importateurs. Et visiblement, forte de leur expérience, ce plan de reconquête apparaît à de nombreux experts comme très sérieux. Autre entreprise innovante, fondée également par deux jeunes femmes, Selma Lazrec et Marilyn Margier, je devrais dire surtout deux jeunes mamans, qui elles aussi en avaient marre. Marre de n'avoir que des plaintes à la maison chaque fois que les légumes pointaient leur nez au menu des enfants. Elles ont donc inventé le concept de ludonutrition en inversant les termes de l'équation, en produisant boulettes, nuggets et saucisses, mais avec une majorité de légumes bio dedans, le tout en circuit court. Et l'ultime ruse est qu'elles ont créé ces recettes avec, comme chef cuisinier, des enfants jamais aussi bien servis que par eux-mêmes.
Et ça marche aussi sur les boissons.
Eh bien oui, Caroline est pléthore de projets dans ce domaine, surtout dans la catégorie jus de fruits bio et bière artisanale. Mais j'avais envie de vous parler d'un projet que j'adore, il faut bien le dire, un truc tellement français que même les Américains vont prochainement y succomber. Il s'agit d'une appli. Si, si, une simple application géolocalisée qui a le nom le plus simple qu'il soit, Raisin. Créée par Jean-Hugues Bretin, elle part elle aussi d'un simple constat, l'intérêt sans cesse grandissant des consommateurs pour le vin dit « nature », dont la France est le premier pays producteur. Problème pour les amateurs, pas toujours facile d'en trouver chez votre caviste ou dans le restaurant d'à côté. Mais avec Raisin et ses 3000 établissements répertoriés dans 35 pays, tout ça est résolu. Et les voilà, direction POP+, POP ça veut dire Pacific Ocean Producers Plus, c'est un événement qui aura lieu en novembre prochain à San Francisco où Raisin va commencer son déploiement aux États-Unis et faire découvrir ses vins qui font déjà fureur à New York. Et 75% de la production française de vin nature partant à l'export, reconnaissons que c'est une belle manière de promouvoir la culture et le savoir-faire français.
Comment vous disiez déjà tout à l'heure, Arnaud Montebourg, une mutualisation amicale des sociétés équitables, quelque chose comme ça ?
Le complément, la société d'entraide.
Allez, voilà, la société d'entraide. Merci pour ce dernier mot. Arnaud Montebourg et Nicolas Chabanne, merci beaucoup. On retrouve bien sûr la chronique de Pierre Hiverna sur notre site internet Les Bonnes Choses et sur la page d'Alimentation Générale, notre partenaire. « Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Aïgoui Chichkoyan, Stéphanie Villeneuve, Natacha Triou, Anna Olvec aujourd'hui à la réalisation et notre technicien du jour, Jacques Hubert, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal suivi de Signes des Temps par Marc Weitzmann.